Alors, nous allons commencer cet atelier. Moi, je m'appelle donc Marie-Aline Amado. Je suis psychanalyste et thérapeute familiale et de couple.
Et membre de l'association PSIFA, voilà. Et donc qui fait partie de la FAPAG, de la Fédération des associations qui travaillons donc sur le groupe. Donc, moi, je suis Florence Baruch. Je suis donc à la Société de Thérapie Familiale d'Île-de-France et à la Nationale. Et j'anime avec Gérard de Scherf un groupe thérico-clinique du niveau 1. Voilà. Et je travaille outre en cabinet, en centre de planification et d'éducation familiale et en PMI. Et je vois pas mal d'ados, filles et un peu de garçons, et des fois en couple.
Voilà. Je veux juste rajouter que je suis aussi formatrice à PSIFA, psychanalyse et famille. Voilà.
Au niveau timing, nous allons un petit peu dépasser, puisqu'ils ont dépassé ce matin, mais je veillerai quand même, nous veillerons à garder le temps, puisque en fait, c'est pas écrit, mais je serai après modératrice de la table ronde après, donc je tiens à ce que le temps soit respecté et qu'on puisse écouter tous ensemble aussi Michel Tauber à 18h30. Donc on se donne jusqu'à 16h30 et on se proposait d'organiser le temps de la façon suivante, de garder évidemment beaucoup de temps pour la discussion, puisque c'est un atelier. Voilà. Donc en fait, on va parler un petit peu pendant une demi-heure, et puis après, libre à vous. Et pendant aussi, n'hésitez pas à intervenir, il y a des micros, et bien sûr c'est interactif, et je sais que parmi vous, il y en a certains qui travaillent avec des adolescents ou avec des familles et adolescents.
Voilà. Alors, si vous avez lu l'abstract qui présente l'atelier, vous aurez repéré peut-être quelque chose qui va être un peu notre... Un des fils rouges hein, de ce travail cet après-midi ensemble. Alors, je voulais insister, enfin, souligner le terme interpulsivité, hein, pour ma part, pour notre part, qu'on a voulu mettre effectivement dans ce propos.
Et dont on n'a pas parlé ce matin. Youpi, c'est un mot nouveau.
Oui, parce qu'on a tourné autour pas mal quand même. Hein. Voilà. Ceci dit, il y a beaucoup de choses qui vont, enfin, un certain nombre de choses qui vont se recouper avec les exposés de ce matin, notamment celui de Patrice Cuinet, hein, qui effectivement a évoqué les forces centripètes et les forces centrifuges, voilà, qu'on avait aussi, nous, initialement repéré pour représenter un petit peu ce qui se peut se passer dans la famille au moment de l'adolescence. Voilà. Alors, donc, ça sera une perspective qu'on va dire... on ne va pas faire un tour d'horizon hein, des positions par rapport à l'adolescence, mais voilà, comment on a eu envie, comment on a souhaité réfléchir autour de cette question, corps familial et adolescence, et comment, nous, on a essayé de le penser à travers des termes, à travers des théorisations, entre guillemets, hein, des tentatives de théorisation, et aussi de la clinique. Hein, voilà. Alors, par rapport au terme corps familial, effectivement, je crois que c'est important de dire que pour nous, c'est une métaphore, hein, on l'a compris comme ça, une métaphore qui introduit, l'intérêt de la métaphore, finalement, c'est d'introduire quelque chose de l'ordre de la sensation, de l'ordre de l'émotion, de l'ordre de la sensorialité, hein, une représentation qui est en deçà des mots. Hein. La métaphore, donc, introduit quelque chose de cet ordre-là, alors que la recherche prioritaire du sens, qui peut nous animer, hein, souvent, elle, c'est plutôt l'inverse. Donc,
comme si là, on vous déclinait un petit peu ce qu'il y a en puberté, puis après, ce qu'il y a en adolescence, en fait.
Voilà. Bien. Alors, le terme interpulsivité, c'est quelque chose qui nous est venu en réfléchissant sur ce qui pouvait se passer au sein de la famille au moment où il y a un membre de la famille qui entre dans l'adolescence. Et donc, tout à l'heure, Florence va nous parler un peu plus précisément de ce qui peut se passer au niveau de cette transformation et des éléments corporels et des interactions avec la famille. Mais moi, je vais insister sur ce terme interpulsivité et vous faire part, au fond, comment on l'a essayé de le penser à travers ce que Ophélia Avron a pu écrire au sujet de ce qu'elle appelle la pulsion d'interliaison. Alors, je ne sais pas si certains ont lu, ont connaissance de cette théorisation. C'est dans son livre qui s'appelle « La pensée scénique », Ophélia Avron est psychanalyste de groupe et psychodramatiste et a beaucoup travaillé les liens entre le groupe et le travail du psychodrame en groupe. Donc, je vais faire quelques citations qui vont nous permettre de nous représenter un peu comment elle pense les choses. Donc, tout d'abord, Didier Anzieux, qui a fait la préface, écrit, je cite, « Dans la perspective de l'auteur, le postulat d'une base pulsionnelle interpulsive permet d'élargir la conception de l'appareil psychique individuel et de faire comprendre le double effet combiné d'une tension irrépressible à la satisfaction et d'une tension tout aussi contraignante à l'interliaison entre psychismes. » Alors, d'emblée, on voit qu'il y a le principe d'un dualisme qui est en jeu dans cette conceptualisation. Alors, elle parle aussi de présence énergétique, d'activité énergétique. Alors, elle, Didier Anzieux, écrit « L'appréhension des variations énergétiques permet aux participants de construire des scénarios où chacun prend sa part pour maintenir dynamiquement l'ensemble. Ces effets de l'interliaison rythmique concernent instantanément tous les membres du groupe, que ceux-ci soient apparemment actifs ou silencieux, intéressés ou indifférents. Une vigilance flottante oriente et rythme les échanges de regards, de postures, les ébauches de mouvements sans les différencier nettement. Chacun se trouve lié à tous. Cet impact énergétique nous soumet aux autres en même temps que nous les soumettons par nos propres réactions. Pardon. Alors naît une unité scénique mouvante et rythmée qui donne vie à l'ensemble. Ces mouvements scéniques de type énergétique et non pas fantasmatique sont plus ou moins harmonieux ou heurtés selon que la pulsivité des uns et des autres est excessive ou insuffisante. La relation libidinale et la parole s'articulent sur ce fondement énergétique, base de la communication humaine. » Alors, ce qui est très important, je ne vais pas vous assommer trop avec des citations du livre directement, mais simplement préciser que dans cette conceptualisation, Ophélia Avron envisage donc cette pulsion d'interliaison qui est d'origine donc énergétique. On est dans le domaine de l'économique. Donc cette pulsion d'interliaison, elle crée du lien en même temps. Elle crée du lien.
Elle dit un petit peu plus loin, dans un autre chapitre de cet ouvrage, la pulsion à l'interliaison assure un état de tension mutuelle et permanent, quoique instable, qui rend les individus présents les uns aux autres, force leur orientation réciproque, engage une auto-organisation rythmique du lien. On viendra là-dessus aussi.
Alors, ce qui m'a paru important et intéressant, c'est comment elle décrit qu'il y a une dualité pulsionnelle avec les pulsions sexuelles, hein, et tous les mouvements libidinaux qui viennent se rencontrer aussi en même temps, et dans cette perspective, encore une fois, économique, hein, du fonctionnement psychique. Alors, ce qu'elle explique, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des polarités. Hein, ces deux pulsions vont venir un peu s'affronter. Hein, et c'est tantôt l'une qui prend le dessus ou tantôt l'autre. Hein, sachant que la pulsion d'interliaison va plutôt aller vers la recherche des liens, hein, privilégier les liens, hein, plutôt que la satisfaction narcissique, libidinale. Voilà. Donc c'est important à savoir, à se représenter ça par rapport à ce qui peut se passer dans le groupe familial et quand on est en face d'un groupe familial en séance, comment les mouvements vont se mettre en place et comment on peut essayer de les repérer. Est-ce que...
Oui, elle évoque aussi dans ce domaine-là la férocité narcissique, dont on va reparler évidemment en adolescence. Elle parle de remaniement rythmique, hein, et en liaison avec des remaniements qui sont qui remettent, j'allais dire, en chantier des fantasmes archaïques, du fait de ce qui se passe en puberté particulièrement, puis en adolescence.
Alors pourquoi on a été chercher de ce côté-là? Sans doute, hein, aussi parce que pour nous, on se représente l'adolescent au milieu de la famille, dans sa famille, les aspects pulsionnels, hein, du côté de l'adolescent, et ce que ça réveille aussi du côté de la famille et des parents, enfin du couple parental surtout. Ouais. Hein, donc quelque chose qui vient là aussi se confronter.
Alors là, quand on a travaillé donc cet atelier ensemble, moi, ça m'avait fait associer sur une situation clinique assez particulière, dans la mesure où ce qu'il en reste, c'est une situation clinique que j'ai aussi présentée un petit peu autrement au colloque de hier, qui avait été préparé par Pierre Bengozi l'année dernière, en février, dans la mesure où ce qui reste un petit peu de cette situation clinique, c'est l'atmosphère, c'est la sensorialité, c'est les émotions, c'est l'incompréhension de la fille face à l'énervement, l'agacement, et plus que ça, de sa mère, qui a débarqué un jour en centre de planification où je travaille, une mère de 27 ans, avec une fille aînée de 12 ans, qu'on appellera Delphine. Et Delphine vient d'avoir elle, c'est pas pendant une consultation de planification familiale du tout, elle débarque dans la PMI où il y a ce centre de planification, ce qui pose aussi beaucoup de questions, que ces deux structures soient dans le même lieu et qui dérange beaucoup beaucoup les pubères et les ados, vous imaginez. Ils n'ont pas tellement envie de se rappeler souvent leur partie enfant, en tout cas grand enfant on pourrait dire. Et donc cette jeune fille vient d'avoir ses règles, elle part en colo avec la ville et la mère débarque avec la fille qui devait être à l'école ce jour-là, au collège, en disant il faut qu'elle ait la pilule, dépêchez-vous, il faut qu'elle ait la pilule. Bien, Madame L connaît ce centre de planification puisqu'elle consulte depuis sa propre adolescence. En fait, c'est une famille que cette PMI, je me suis rendu compte, connaissait sur 3 générations. Donc elle traverse la rue, affolée, elle habite juste en face, elle entre dans ce centre de planification et elle dit c'est une urgence. Elle traîne sa fille, qui comprend absolument pas ce qui se passe, qui est très énervée parce qu'elle devait être au collège avec ses copains et ses copines, en plus le collège est mitoyen de cette structure. On est au printemps et il se trouve que quand même je les reçois dans mon bureau, Elle entend les cours de flûte qui sont juste à côté et elle se demande pourquoi. Enfin, elle est plus attirée par les cours de flûte qu'elle entend de son collège que de ce qui se passe. Et donc, je présente un petit peu la structure, qui on est. Et après, je reçois la jeune fille et elle comprend absolument pas ce qu'elle fait là. Vraiment, elle se dit complètement affolée, elle est énervée par l'énervement de sa mère, elle dit « ça se voit, vous voyez pas comment elle est, elle m'écœure ». Et on sait qu'en puberté, la fille est prise dans ce corps qui change sous ses yeux, auquel elle ne peut pas faire grand-chose, et pourtant elle va essayer d'en faire beaucoup de choses, de ce corps, pour se cacher particulièrement. Et ces changements physiques et physiologiques, vous le savez, viennent signer l'avènement d'une nouvelle fonction, qui est cette fameuse fonction de reproduction, propriété des parents jusque-là. Et pendant toute je l'ai vu deux ou trois fois, j'ai vu la mère en fait. La fille n'est pas ressortie, évidemment, vous l'avez compris, avec la contraception. Par contre, on a revu avec la mère et la fille d'autres soucis qu'elle avait, puisque c'était une jeune fille qui... l'année d'après, ne pouvait plus aller au collège dans la mesure où elle avait des plaies au niveau des cuisses parce qu'elle ne pouvait plus marcher tellement elle était énorme. Et quand on a essayé, moi j'ai essayé de faire du débroussaillage psychique, c'est plutôt ça que je faisais en termes de planification qu'évidemment des thérapies, c'est absolument pas le lieu, mais on est en face d'un service d'adolescents, le service du Kremlin-Bicêtre du professeur Alvin, et ma démarche c'était de l'adresser dans ce service puisqu'elle était en grande difficulté par rapport à cette prise de poids. Et là encore, je reçois la mère et la fille, et la mère disant, mais nous on s'aime, qu'est-ce que vous avez besoin avec un langage assez particulier, qu'est-ce que vous avez besoin de nous embêter avec tout ça, on s'aime, tout va bien, bon elle a du mal à aller au collège, c'est bien dommage pour elle, mais enfin moi j'y ai pas été si longtemps, c'est déjà pas mal qu'elle y aille au moins jusqu'en troisième. Et en fait... La mère décrivant la façon dont on s'aimait en famille. Et dont on s'aimait en famille, à Noël, il y a toujours beaucoup de choses, notamment beaucoup de chocolat. Le soir, cette femme avait trois filles et un garçon. Les hommes ne peuvent pas tenir dans cette famille. Il n'y a jamais eu un homme qui est resté. Le père de ses quatre enfants sont tous différents. Et, et elle le dit avec un petit peu de fierté, cette mère. Elle l'a toujours dit avec un petit peu de fierté. Et donc, on continue à parler un petit peu de la façon dont on s'aime en famille. Et elle me dit, mais le soir, de toute façon, tous les livres que vous donnez à la PMI, là, à chaque fois, on vous offrait un livre, c'est bien joli, nous, on s'en fout, les livres, on ne les lit pas. Ça ne nous intéresse absolument pas. Et je lui dis, mais comment ça se passe le soir, au rite du coucher? Et elle me dit, ben, de toute façon, on mange assez tôt, on mange bien, et puis après, moi, je passe, je fais des bisous, et je leur donne un chocolat chaud et des croissants. Voilà. C'est une façon de dire qu'on s'aime. Pourquoi pas, hein? C'est un petit peu étouffant. C'est une famille où on n'a pas l'impression que c'est possible de parler, hein? Un petit peu plus tard, le petit garçon qui était à l'école maternelle arrive un matin avec un énorme couteau dans son cartable. Évidemment, il est tout de suite interpellé, on pourrait dire, par la maîtresse qui lui dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et le petit garçon de dire à la maîtresse « c'était pour te faire la peau et c'est pour te faire la peau ». Et qu'est-ce qui se passait? C'était que la mère avait reçu un courrier demandant, puisque les fonds avaient été alloués, que ce petit garçon ait des lunettes, simplement, puisqu'on se rendait compte qu'il avait des difficultés pour regarder les signes, etc. etc. Et la mère disant devant le petit garçon chez elle, mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle nous emmerde, cette maîtresse et cette femme avec toutes ces histoires, de toute façon, on va lui faire la peau. Et directement, ce petit garçon est arrivé à l'école avec son couteau, avec tout ce que ça suscite, j'allais dire, d'émotion aussi. Dans cette famille-là, un peu plus tard, cette jeune fille dont je parle a eu deux fils. Elle a quitté la maison, ça a été difficile, mais elle est arrivée à quitter la maison. Elle est en couple et ils vivent en famille. Et ils ont été réveillés, les parents ont été réveillés une nuit par le lit qui tremblait, leur lit qui tremblait. Et sur le lit, il y avait les deux petits garçons avec des couteaux et qui s'amusaient encore avec des couteaux au-dessus du lit des parents. Pour vous dire qu'on est dans la sensorialité, on est dans je veux dire, l'interpulsivité, mais il n'y a pas accès aux représentations. Alors, on a scandé notre atelier en reprenant les quatre phrases qui sont sur l'abstract. Et on va continuer sur cette rivalité oedipienne dont j'ai déjà parlé, mais qui est très réactivée à travers l'expression des corps, en puberté particulièrement, hein, notamment par le regard et tout ce qui se passe au niveau du regard chez les filles, et par la voix chez le garçon. On parle d'esprit de corps, on parle du corps familial qui est malmené. On entend les phrases, hein, c'est lourd, c'est relou, ça me gonfle, ça me pèse, c'est trop. Enfin, c'est des expressions pubertaires, et peut-être pas adolescentes, bien sûr, qui existent. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, à moins que dans la discussion, on en ait besoin, mais c'est pour aller un petit peu plus vite et qu'on laisse la place à la discussion. Donc, deux voies différentes au niveau de la façon dont... la fille et le garçon et les parents par rapport à cela, à eux, sont en étonnement, j'allais dire, de la puberté de leur fille ou de leur garçon. On a évoqué, quand on a préparé cet atelier aussi, ce deuxième temps en adolescence, qui est l'adolescence elle-même, qui est cette période de désomatisation dont a parlé Philippe Guton déjà, cette recherche de l'autre différent, où il y a une nouvelle femme dans la famille, où il y a un nouvel homme dans la famille, avec toute cette nostalgie, que je dirais plutôt saoudade que nostalgie, qui est un petit peu plus en sensorialité, disons, que notre nostalgie française, du monde de l'enfance et du monde de la tendresse. Alors c'est vrai que moi, quand j'entendais Alberto Egger parler de la caresse, je me disais, oh là là, s'il y a des ados dans la salle, les caresses, alors là, c'est vraiment pas pour eux. Déjà par rapport à eux, par rapport à leurs copines ou copains, c'est pas si évident que ça. Ça va passer par des chocs plutôt que des caresses, hein, des confrontations. Par contre, la nostalgie de la mère tendresse, elle est bien là. Et c'est bien ça qui va être compliqué, en tout cas dans les familles que j'ai suivies avec des filles en adolescence, qui étaient passées par des passages à l'acte du côté... j'allais dire, d'une fécondation, questionnement sur les origines, sur l'histoire de la famille, sur le mythe familial, sur éventuellement des fantasmes autour d'un auto-engendrement potentiel dont elle serait venue. Il y a une espèce de conflit et une incompréhension entre cette fille qui peut-être cherche la mère tendresse des premiers temps dont on vous a parlé et dont on doit parler dans un atelier pas loin, faisant du groupal, hein, on peut aussi penser à eux, alors que la mère voit la femme future, ou voit le bébé, mais pas cette recherche de cette mère archaïque tendresse que cherche la fille. Et c'est bien la difficulté pour ces filles adolescentes qui décident, consciemment, inconsciemment, de poursuivre la grossesse et de faire un bébé au père, en passant par la mère. Et je repensais, en préparant l'atelier, à cette jeune fille de 14 ans qui a été pubère au moment où sa mère et son père lui annonçaient qu'elle n'aurait pas de petit frère parce que c'était la xème FIV qu'elle faisait et que ça ne marchait pas. Et quand elle a été enceinte, elle a décidé de poursuivre la grossesse en disant très subtilement à sa mère « Tu ne crois pas que je suis en train de te faire le petit frère que je n'ai pas eu. Hein, tu ne crois pas que je suis en train de te faire le petit frère que je n'ai pas eu. » Cette fille qui était vraiment en manque de cette mère tendresse, j'allais dire, qui en plus n'était absolument pas là, très prise par ses activités professionnelles. Voilà. Tu avais aussi une situation clinique peut-être à présenter sur...
Est-ce que par rapport à la transmission au transgénérationnel, la notion de adolescent maillon de la chaîne transgénérationnelle, quelque chose aussi à prendre en compte dans la perspective aussi de l'adolescent dans sa place, dans sa famille, tiraillé entre, entre partir, quitter, s'éloigner, quitter cette place de maillon transgénérationnel pour aller vivre quelque chose en dehors de la famille, hein, et pour la famille, ce que ça peut représenter aussi. Alors, peut-être c'est pour faire un petit peu lien, parce que la situation que j'avais prévu de vous soumettre, c'est la situation d'une famille que je n'ai pas vue personnellement, mais que j'ai suivie dans le cadre d'une supervision. Famille donc que j'ai supervisée. En quoi ça concerne notre atelier par rapport au corps familial? Dans cette famille, il y a 3 enfants, une fille aînée qui a 16 ans, une autre fille qui a 14 ans, 13 ans, et un enfant de 10 ans, un garçon, le dernier. Et le garçon, c'est lui qui pose problème, et c'est pour lui que la famille qui a eu une indication donc, de travail familial, de thérapie familiale. Il est suivi par ailleurs par une orthophoniste. Il présente une phobie scolaire, on va dire. Hein. Alors, en fait, on va découvrir au fil des séances que la fille aînée est anorexique. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il y avait quelque chose aussi d'intéressant par rapport à notre thème. Alors, la famille d'Antoine. Je vais vous rapporter quelques séances. En arrivant, les premiers mots, c'est « on ne communique pas, on n'arrive pas à communiquer ». Alors, dans cette première séance, la mère dit qu'elle n'arrive pas à réunir la famille, à animer le temps du repas. Le père dit qu'il a des activités sportives à l'extérieur. Ensemble, en famille, ils font des courses d'orientation. C'est la question qu'on s'est tous demandé. Alors, je vais vous expliquer parce qu'on ne l'a pas compris tout de suite. Le père souligne, peut-être un reproche, je ne sais pas, que c'est la mère qui a imposé cette activité. Lui, il faisait plutôt de l'escalade. Et il ajoute, cette activité de course d'orientation, donc, c'est comme une famille pour ma femme. Alors, la course d'orientation, c'est en fait une activité où la personne se retrouve seule avec un trajet et il faut qu'elle se repère, qu'elle se retrouve, qu'elle arrive au bout dans un temps donné. Enfin, voilà, c'est une épreuve qu'on fait en général à l'adolescence ou dans les groupes d'éclaireurs ou de... Voilà. Mais c'est une activité donc initiée par son épouse. Bon. Alors, quelques séances plus tard, en fait, c'est la séance qui précède les vacances d'été, la séparation, ils arrivent en courant essoufflés. Et ils racontent une récente histoire de clé. Ils ont été obligés de réveiller leurs enfants une nuit, ils rentraient tard, pour pouvoir rentrer chez eux. Hein? Alors, bon. Un peu comme une inversion de génération, là, quand même. Hein. Ils associent ensuite sur d'autres histoires de clés. Madame dit qu'elle ne voulait pas que ses enfants... Alors, bon, il y a des histoires de clés. Madame dit qu'elle ne voulait pas que ses enfants naissent à des dates trop proches. Hein, on change de thème, là. Mais c'est dans la même séance. Madame dit qu'elle ne voulait pas que ses enfants naissent à des dates trop proches. Elle ne voulait pas qu'il soit collé. Hein. Donc, on peut imaginer qu'il y a un problème de différenciation, d'individuation, hein, quelque chose comme ça. Et elle souligne qu'Antoine, donc leur plus jeune fils, est né un peu trop tôt. La mère venait de se fâcher avec sa mère et sa sœur. Bon. Alors, je ne sais pas s'il y a une causalité là, mais bon. Alors... pendant ce temps-là, les thérapeutes font part de leur impression, pendant cette séance, qu'ils ne sont pas ensemble. Le père et la mère ne sont pas ensemble. Un sentiment comme ça. Et la mère, en effet, évoque... Alors, comme pour les confirmer, la mère évoque des ruptures familiales. Tandis que le père enchaîne sur sa propre famille, mais en parle avec un plaisir évident. Presque jubilatoire. Il raconte comment les biens ont été dilapidés par le grand-père et tous les enfants placés en internat. Enfin, c'était quelque chose qui avait pris un registre libidinal, on va dire, très particulier, défensif, bien évidemment. Mais voilà, donc ils ne sont pas ensemble, hein, ils ne sont pas accordés au niveau de, émotionnel, là, c'est clair. Alors la séance de reprise après les vacances, septembre, Lorraine, c'est la fille aînée, est absente. Elle a quitté la maison pour ses études à Paris. Et la mère, alors profitant probablement de son absence, évoque l'anorexie de cette fille aînée. Elle évoque aussi son soulagement pendant les vacances, quand elle n'était pas avec eux. Et toute la famille semble soulagée, hein, ressentir du soulagement de pouvoir en parler. Alors Antoine, qui écoute tranquillement, à un moment donné, interrompt et dit qu'il raconte comment lui, il mange beaucoup, beaucoup. Il mange pour deux. Il est plus animé ce jour-là. Alors le père, c'est la fin vers la fin de la séance, le père dit, à propos de son fils Antoine, donc, il dit, Antoine, c'est celui qu'on perd dans les magasins. On est toujours en train de le chercher. Bon. Antoine, qui est un champion de la course d'orientation. Voilà. Quelques séances plus tard, au mois de décembre, donc ils arrivent, ils avaient annulé la séance précédente. Et les thérapeutes, entre eux, se font un commentaire comme ça, disant, en gros, ils nous ont perdus dans la course d'orientation. Alors, Estelle, elle, c'est la fille qui est au milieu, la deuxième, elle revient d'un stage d'orientation, justement. Et chacun dit, alors, il y a justement une sollicitation pour qui s'exprime chacun autour de ça. Pourquoi ça leur plaît, pourquoi ils aiment ça, qu'est-ce qui, voilà, comment ils se sentent dans cette activité. Alors, la mère dit, c'est le seul moment où je peux me retrouver seule et m'occuper de moi. Antoine dit qu'il aime quand ça se termine, quand il retrouve tous les autres et qu'il partage le goûter sous la tente.
Rappelez-vous Claude Birman ce matin. Hein. Mmh. On n'est pas mort, on est ensemble, mangeons.
Mmh. Oui, exactement, j'y pensais d'ailleurs. Le père, il dit qu'il aime quand il fait sombre, quand ça se passe la nuit. Il entend les bruits, il voit des ombres. Qu'est-ce que c'est? Un sanglier. Moi, je rajoute un ogre. Et Estelle, la fille du milieu, donc, elle dit que ce qu'elle aime bien, c'est renseigner les adultes qui sont perdus.
Et hop.
Alors, se perdre pour se retrouver, se perdre pour se trouver soi-même, s'éprouver soi-même, les peurs de l'enfance, la solitude, se perdre pour retrouver les autres, enfin bref. Quelque chose comme ça qui commence à se figurer en moi, à travers ce matériel, comme un jeu pour essayer de figurer, transformer quelque chose d'irreprésentable, quelque chose de transgénérationnel, quelque chose du mythe familial, ne compter que sur soi-même, hein. Et me vient l'image du conte du petit poussé et de l'ogre, hein, avec l'image de l'abandon, les parents qui abandonnent, et comme si aussi il y avait quelque chose du registre d'un rite ordalique, hein, dans cette famille aussi, comme ça, de cette façon-là. Voilà, c'était une petite vignette que je voulais vous présenter, parce que je trouvais qu'elle était, elle était intéressante par ce que ça a pu interpeller en nous, quand... par rapport à cette activité, effectivement, comme vous, mais qu'est-ce que c'est, hein, et qu'on a du mal à se représenter comment une famille peut être accrochée comme ça, hein, à cette activité, tous. Hein, comme si, bon, ce corps familial, il fallait lui faire éprouver cette expérience quand même très particulière. Hein. Je ne sais pas si tu veux réagir.
On pensait aussi évidemment au Forda, hein. C'est ce qui vient aussi, hein, d'expérience, avec aussi à la notion de collage et d'abandon, à ce que nous a rappelé aussi Claude Birman quand il évoquait les deux phases d'un même échec, l'implosion par possession ou l'abandon. Hein. Enfin, ça fait écho, en tout cas, par rapport à cet atelier, à cette histoire de force centripète et centrifuge dont parle Patrice Cuinet. Quand l'adolescent réinterroge ses origines, ses liens de filiation à travers son corps, on peut se demander aussi, le corps familial aurait-il alors à craindre de voir ses enveloppes attaquées, de se sentir écartelé, et lorsque surtout cet adolescent maillon de la chaîne intergénérationnelle semble prendre un peu trop de liberté, hein. Je vous renvoie à ce que Patrice Cuinet a écrit sur la façon dont la chambre est visitée, non visitée, ses parents qui vont aller jusqu'à voir dans le disque dur de l'ordinateur ce qui s'y passe, avec quand même cette stratégie assez anxiogène qu'est la transparence psychique, éventuellement, qui existe dans la famille. C'est-à-dire, on se dit tout pour éviter, soi-disant, les conflits. Donc ça interroge bien évidemment ce qu'ont travaillé les systémiciens, ce qu'a travaillé après André Ruffio, ce qu'on a repris aussi du côté du mythe familial, qui bien évidemment est tout à fait prégnant dans cette période-là. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le plan, on pourrait dire, représentatif, sur le plan des pratiques, sur le plan du langage, est bien attaqué, est bien questionné, est bien revisité. Peut-être pas en puberté et en adolescence, certainement. Hein. Que ce soit au niveau, par exemple, des pratiques, ce groupe familial qui est quand même un espace de création, de co-création, souvent hérité de rites quant à la vie quotidienne, on voit combien les adolescents vont mettre à mal les repas, par exemple. Hein. Avec des adolescents, on entend des fois dans les familles, enfin, moi je me rappelle d'une famille qui se plaignait énormément, qui m'avait été envoyée par une collègue du reste de la PIF, là, la STF PIF, et qui disait, mais de toute façon, moi je ne mange pas avec mes parents, je ne mange pas avec mes frères et sœurs, c'est dégoûtant, ils font du bruit, on les entend mastiquer, ils ont des espèces de râles, on dirait qu'ils sont toujours malades, en plus ma mère me demande toujours de faire un bisou, c'est dégoûtant, j'ai envie de m'essuyer à chaque fois, et avec, même dans cette famille, des verres d'eau qui traversaient la pièce, tellement c'était insupportable, ce qui fait que le repas se terminait quand éventuellement les parents et le petit frère dans cette famille voulaient absolument que tout le monde mange ensemble, et c'était pas possible. Alors au début c'était il y a la télé, mais c'était pas la télé, c'était surtout les bruits qui étaient vraiment insupportables, hein, et cette proximité. Ça vous dit quelque chose peut-être, hein. Je sais pas, oui. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Non, vous n'avez pas eu des situations comme ça?
Peut-être pour ajouter quelque chose, parce que c'est pas en tout ou rien. Je pense que ce qui est important, c'est de souligner que la force de ces mouvements, hein, que tu décris sont à la mesure aussi de quelque chose qu'ils sentent en eux qui les retient à l'intérieur de, ou qui les pousse à rester, ou qui les pousse à bon, je pense au fantasme incestueux, par exemple, hein, le désir incestueux, qui sont réactivés à l'adolescence et qui peuvent se combiner avec ces craintes et ce besoin de pouvoir exprimer brutalement, hein, ce besoin de partir, de s'échapper, d'échapper à ces désirs-là aussi. Donc c'est pour ça que les... ça c'est un premier ordre de choses. La deuxième chose, c'est que c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Envie de créer sa propre histoire, et non pas rester dans le maillage, l'héritage de l'histoire familiale, un besoin de créer sa propre histoire, désir de créer sa propre histoire, et en même temps, conscience d'être encore dépendant, hein, vivre la dépendance, et ressentir des besoins encore, j'allais dire, primaires, hein, de ses parents, enfin... d'être avec ses parents, d'être nourri, etc. Enfin voilà, du petit, hein, encore. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient se heurter et vient faire conflit en lui. Alors, c'est pour ça que aussi les forces centripètes et les forces centrifuges, elles sont aussi au cœur de la conflictualité de ce que vit l'adolescent lui-même au sein de sa famille. Bon, c'est ça que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais. Et également au sein de groupes familiales pris dans à la fois tu n'es pas comme on, tu n'es plus notre enfant, notre bébé, on te reconnaît plus, tu t'en vas, mais en même temps on va te retenir parce que tu représentes quelque chose de notre maillage familial et de notre histoire aussi du passé avec l'enfant que tu étais. Voilà. Enfin, c'est compliqué aussi du côté de la famille pour ça.
Oui, je vous rappelle ce que disait Patrice Quinet. Pour rester dans l'hypothèse d'une représentation d'une image du corps familial qui palpite, nous évoquons cette fois-ci la dynamique centrifuge. Hein, centrifuge, hein, c'est pas évident des fois de se rappeler ce que ça veut dire, centripète et centrifuge. La dynamique centrifuge où le corps familial doit s'ouvrir au monde en se dilatant pour s'enrichir d'éléments nouveaux. Pour arriver à ce but, il faut accepter paradoxalement de laisser partir, de lâcher prise sur ce que nous détenons. Et donc là, on en est venu à se questionner sur l'enveloppe familiale, hein, qui, bien que contenante et unitaire, ne doit pas être pour autant, évidemment, opaque et imperméable. Hein. Sinon, bien sûr, il y a un risque d'étouffement qu'on connaît tous dans les familles qu'on reçoit éventuellement.
Et selon le principe physique, qu'une structure trop rigide finit par casser.
Alors, on s'est posé la question aussi de la façon dont, pour lutter contre les angoisses d'abandon, alors c'est un petit peu en lien avec ce que disait Patrice Quinet, avec ces images très, très fixées, hein, de la façon dont l'ado part, mais bon, il n'a pas parlé de la fratrie, de ce qui peut se passer aussi au niveau des générations antérieures quand l'ado part de la maison. Que ce soit avec la fidélité et la maison reconstruite dans son lieu d'habitation, que ce soit avec des compromis ou que ce soit en rupture avec des angoisses mortifères qui met bien en scène, que ce soit du côté de la tentative de suicide ou du côté de la fugue, des moments comme ça. Hein. Et comme si l'adolescent devait emporter des lambeaux, j'allais dire, plus ou moins encombrants, de cette peau familiale d'origine. Hein. Et pourtant, on voit combien, en puberté par exemple, au niveau des lambeaux de la famille, au niveau vestimentaire par exemple, là c'est une création, mais c'est une création avec ses pairs. Ils sont dans du même, ils ont la même couleur de vêtements, ils ont la même, je sais pas, structure capillaire, ils marchent de la même façon, etc., etc. Là, l'enveloppe, elle est groupale avec les pairs. Elle n'est pas du tout du côté, évidemment, de ce que proposaient encore les parents. Hein. C'est certain. Alors, comment réagissent aussi les parents à cette prise d'individuation, mais qui passe par le groupe et qui est nécessaire, évidemment, pour ces pubères, qui est même une force importante. Et on voit combien ils sont habillés comme des oignons, j'allais dire, avec plusieurs couches, et toutes les couches sont importantes. Et il n'est pas question d'enlever ces couches de vêtements s'ils ne sont pas à l'aise, même s'il fait très chaud, ce n'est pas le problème. Et ce n'est pas une histoire de politesse, vous le savez bien. Alors, on s'est questionné aussi sur, évidemment, l'enveloppe qui a été un petit peu évoquée ce matin avec ces deux feuillets, hein, le feuillet externe et le feuillet interne. Cette enveloppe aussi généalogique familiale dont a parlé beaucoup Evelyne Grandjean. Elle a développé ce qu'il en était de l'enveloppe psychique groupale. Elle a aussi parlé de l'enveloppe généalogique et elle en est venue à un concept d'enveloppe généalogique familiale. Et c'est une notion qui pourrait être intéressante, j'allais dire, que va développer, je pense, après nous, Anna Maria Nicolo, hein, avec ce premier feuillet par excitation et ce deuxième feuillet interne de signification. Tu as peut-être rajouté quelque chose là-dessus.
Non, moi je pense qu'on a essayé de balayer un petit peu là ce qu'on avait prévu de vous soumettre. Maintenant, bon, il nous reste 45 minutes. Hein, peut-être vous donner la parole pour réagir, si vous souhaitez des explications complémentaires, si vous avez des exemples aussi à nous soumettre. Enfin, voilà.
Oui, bonjour, Julien Lelièvre, psychologue, je travaille dans une maison des adolescents. En venant à ce moment-là, sur l'adolescence, je me posais la question de l'anorexie, en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même une pathologie qui est quand même assez typique de l'adolescence, qui est en lien avec le corps. Et alors, je suis depuis quelque temps avec une collègue en thérapie familiale, une adolescente, et c'est vrai que les liens, pour moi, entre ce qui se passe pour elle, du point de vue de sa symptomatologie, et de ce qui se passe au niveau de la famille, et de... Je ne fais pas tellement de liens, en fait, entre ce qu'elle peut éprouver, ce qu'il peut se passer dans la famille. Alors, en même temps, en vous écoutant, j'y pensais un petit peu, et c'est vrai que je me disais que ce qui s'est passé dans le cadre de ce travail, c'est qu'aussi les parents qui semblaient plus avoir de sexualité, en fait, petit à petit, ont renoué quelque chose entre eux qui paraît assez clair. Alors, je me demandais s'il y avait un lien avec l'histoire de l'interpulsivité ou pas, enfin, voilà, parce que je ne connais pas très bien le concept et que vous l'avez présenté un peu tout à l'heure. Je me posais aussi la question du rapport d'emprise. Alors, c'est vrai que le rapport d'emprise qui peut avoir lieu entre les différentes personnes de la famille et d'elle par rapport à son propre corps, toute la question du contrôle, de la souplesse qui peut se trouver, etc. Et en fait, j'étais assez intéressé en venant ici de savoir un peu comment a été théorisé ça, sachant que quand même la pratique de la thérapie familiale auprès des familles qu'on dit anorexiques est assez importante. Voilà.
Alors, ce que vous me dites, Julien, me fait penser à quand on a préparé aussi cet atelier. Moi, il me revenait une journée d'études que peut-être certains ont assisté, organisée par le service du professeur Alvin au Kremlin-Bicêtre sur les anorexies, et scandant pendant toute la matinée qu'il n'y avait pas besoin de psy, qu'il n'y avait pas tellement de demandes, donc ce n'était pas tellement la peine, alors qu'il y en avait dans la salle et qui était un petit peu bousculé par ce qu'il disait. Et en même temps, qui nous disait de façon très narcissique, mais de toute façon, je vous ai quand même, vous les psys, préparé une petite surprise après déjeuner, et vous verrez, vous serez bien contents. Donc on attendait évidemment la petite surprise, et la petite surprise, c'était en fait qu'il y avait quelqu'un qui faisait du cinéma, qui cherchait à filmer un service dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui avait imaginé peut-être filmer quelque chose du côté du service pédiatrique, et en fait, en désespoir de cause, eh ben, il s'était retrouvé dans le service d'ados, il ne savait pas quoi faire, puisque les ados éventuellement traînaient dans les couloirs, se racontant éventuellement leurs méfaits les plus terribles, dessinant dans une salle, et il ne savait pas quoi, il ne comprenait pas. Et tout d'un coup, il a eu l'idée, parce qu'il s'était rendu compte que quand même dans les chambres, il y avait des objets qui appartenaient plutôt au monde de l'enfance et qui étaient un petit peu étonnants. Et donc ce cinéaste a eu l'idée de faire parler les doudous des adolescents qui étaient hospitalisés dans ce service. Voilà. Et il y avait entre autres une jeune fille qui avait une jumelle et qui s'étonnait beaucoup que sa jumelle aille très bien, alors qu'elle allait très mal, elle le disait. Même si elle contrôlait tout, visiblement, elle était quand même en grand risque, vu son poids et sa perte de poids et son contrôle. Elle le disait devant la caméra sans problème. avec un peu de jouissance en plus, je pense. Et quand même, ce qui l'étonnait beaucoup, c'était le doudou qu'elle avait. Parce que le doudou qu'elle avait, en fait, c'était le doudou de sa mère. Sa mère, à la naissance, lui avait donné son doudou à elle. D'accord ? Ça me faisait penser... voilà. Il y en avait une autre qui, comme doudou, avait une alliance autour du cou, qui était l'alliance de sa mère. Voilà, ça peut vous faire cheminer dans ce qu'il y a de lien, en tout cas, au niveau d'un, peut-être aussi du corps familial, à qui appartenait le doudou de la mère. Hein. Enfin, on peut... bon. Qu'est-ce que c'est que cet objet où on peut, qui peut différencier le monde connu du monde inconnu, et notamment au niveau sensoriel, hein, qui représente les odeurs, les sons de la famille, le portage, le sensori-affectivo-moteur connu du bébé et qui est représenté éventuellement par un objet. Et qui était dans le sensori-affectivo-moteur de la mère.
Mais est-ce que tu as essayé de creuser un petit peu pourquoi il te présentait ça comme une surprise ?
Le couvercle a été remis tout de suite après. Hein. C'était... voilà. Vous dites ? C'est cela.
Je continue, j'ai pas vu s'il y a d'autres personnes qui avaient levé la main, mais c'est juste que ça me faisait penser. Il y a quelque chose de très particulier justement avec cette famille, c'est que, enfin surtout au départ, à chaque fois qu'on sortait des séances, on était affamé. Avec, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'une envie, c'est d'aller manger, etc. Alors que la question de la nourriture était très peu abordée pendant une grande partie des premières séances où c'était quasiment tabou. Enfin, en tout cas, c'était absolument pas abordé. Et alors, d'un coup, résultat en écoutant, je me demandais quel était l'effet, justement, peut-être, au niveau contre-transfert, de ce qu'on pouvait sentir dû à leur corps familial ou de ce qui était en jeu un peu. Ça, peut-être j'ai des choses qui sont complètement à côté de la plaque, mais en tout cas, c'était l'idée que je me demandais, c'est-à-dire, dans peut-être un contre-transfert du côté de la dévoration de notre part ou de quelque chose où ça éveillerait dans ce sens-là. Donc voilà, juste une idée, puisque j'avais commencé à parler un peu de la situation.
Dans votre clinique, à vous, comment ça se passe ?
Vieux souvenir des cours de Monsieur Philippe Guiton il y a 10, 12, 15 ans. Bon. Je me demandais par rapport aux adolescents et aux familles où il y a une garde alternée, est-ce que ça renforce les difficultés des adolescents ou au contraire, est-ce que ça, ayant deux corps familiaux au lieu d'un, qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui est le mieux ? C'est une question vraiment large. Puisque donc, moi, le souvenir que j'avais de M. Guiton, il faut abattre les imagos, les imagos parentaux. Et puis, voilà, enfin, bon, ça, c'était peut-être... ce que vous dites semble plus nouveau ou plus subtil. Bon, mais moi, je me pose aussi la question du rapport du social par rapport aux adolescents. Est-ce qu'il y a des... Je pense qu'il y a des facteurs aggravants ou facilitants selon la période que... les adolescents vivent, peut-être.
C'est sûr qu'en pleine réactivation oedipienne, de toute façon, tout le monde est malmené. Hein, je veux dire, le père, la compagne du père, la mère, le compagnon de la mère, le parent seul avec son adolescent, on pourrait dire encore plus, hein, d'autant plus si l'adolescent ne repère absolument pas le désir du parent pour un tiers, quel qu'il soit, même une activité. Hein. Moi, il me revient une situation, là encore, de mère et d'adolescente, une mère toute seule. Et quand la mère a amené sa fille pour une demande d'IVG, elle a dit d'emblée devant la fille, presque dans le couloir, vous comprenez, si j'avais avorté à son âge, j'en serais pas là, son père peut-être serait resté, et puis moi j'aurais fait des études. Et tout d'un coup, évidemment, la fille avait des larmes qui coulaient sans rien dire, sans bouger, mais elle s'est rendue compte, et elle l'a dit, qu'elle n'était pas née que de sa mère. Et pour elle, elle avait eu vraiment l'impression, sa mère ayant eu des activités professionnelles avec des horaires complètement en lien avec les horaires de sa fille, qu'elle était dans un espèce d'auto-engendrement. Donc là, tout d'un coup, a venu apparaître une figure paternelle potentielle, du reste qu'elle a essayé de rencontrer une ou deux fois, et elle a mis en route, après, un an après, une grossesse avec le même garçon qu'elle s'était passée la première fois, qu'elle a poursuivi. Elle est revenue nous voir en disant « il faut que vous m'aidiez parce que je ne sais pas ce qu'on va faire », et dans le 11, c'était sa mère et elle, parce qu'elle savait bien que sa mère allait vraiment décompenser ce qu'elle n'a pas raté. Donc, je ne sais pas si le nombre de foyers fait qu'on a X corps familial dans la tête. Je ne suis pas certaine. En tout cas, on pourrait le dessiner, le figurer. Mais bon.
Oui, justement, je voulais rebondir par rapport à votre idée, votre question. Est-ce qu'il y a deux corps ? Est-ce que pour cet enfant, il y a deux corps familiales ? Moi, ça m'a fait associer sur aussi quelque chose dont on n'a pas parlé encore, qui est le sentiment d'appartenance, hein, et qui vient aussi là participer de cette représentation du corps familial, finalement. Hein, et que ça aussi, c'est quelque chose qui est bousculé dans la configuration que vous rapportez, la situation que vous rapportez, et qui vient aussi bousculer le sentiment d'identité, hein, de l'adolescent, hein, et la question identitaire qui revient. Voilà.
Je constate que les enfants ne parlent pas d'une maison à l'autre, ou alors ce sont des petits échappés comme ça, chez papa, les horaires, c'est tôt, on se couche tôt, c'est préparé à l'avance. Chez maman, c'est toujours un peu la pagaille. Enfin, bon, voilà. Mais c'est vraiment pas raconté. C'est lâché au coin du bois, on pourrait dire. Et j'ai l'impression que ces séparations, enfin, elles ont introduit une espèce de clivage supplémentaire et une difficulté identitaire supplémentaire. À qui être fidèle ? J'entends bien que du côté des mères, c'est sûr que pour les enfants qui vont chez leur mère, toutes ces histoires d'odeur, d'habitude, etc., c'est resté. Mais pour ceux qui vivent, enfin, quand ils vont chez leur père, qui a une autre compagne, un autre rythme et d'autres... j'ai l'impression qu'ils sont plus visiteurs, ils n'ont pas été accompagnés tout au long de leur vie par, par tout ça. Donc ça me pose beaucoup de questions sur ce que ça ajoute, ou alors au contraire, peut-être que comme les imagos sont devenus parentaux, sont devenus moins prégnants, moins forts, est-ce que peut-être la rébellion ou le besoin de se détacher, est-ce que c'est facilité, mais est-ce que ça ne va pas induire plus tard une fragilité identitaire ? Une question qui me préoccupe beaucoup.
Oui, moi il me vient aussi un petit exemple là par rapport à cette situation de famille recomposée finalement. Où une adolescente, enfin bon, disait que finalement, bon, c'est vrai qu'elle était toujours perturbée, enfin déstabilisée. Chaque fois qu'elle allait quelque part, les enfants qui étaient dans le foyer de chaque côté disaient « Ah, tu es chez nous cette semaine. Ah, tu es chez nous ce week-end. » C'est-à-dire qu'elle était toujours chez les autres. Voilà.
Il y avait une question.
C'est pas forcément une question, c'est pour présenter un, parler un petit peu d'une vignette clinique d'un, dont je travaille en maison d'enfants, donc avec des enfants placés. Et donc il y a un adolescent qui a 14 ans. Donc en fait, bon, le corps est, est très présent dans la famille à plusieurs niveaux. Donc déjà parce que c'est un jeune qui a un diabète qui est dépendant, qui doit tous les jours se faire plusieurs... plusieurs prises de sang, et l'aîné de la fratrie a aussi un diabète. La mère a une sclérose en plaques. Et en fait, donc, c'est un jeune qui a été placé, donc les parents se sont séparés, il a été, le père a eu la garde, et en fait, il a été placé parce qu'il a dénoncé le fait que son père le tapait quand en fait, son taux de diabète était mauvais. Enfin, son, enfin, quand les résultats qu'il avait étaient mauvais, son père le taper à ce moment-là. Et la mère, enfin moi j'ai, en fait en entretien, donc j'ai rencontré le donc le jeune Dylan et sa mère, et donc madame de son côté, donc les parents étaient séparés, le jeune a été placé, et la mère disant que comme elle avait une sclérose en plaques, du coup elle ne mettait pas de limite à son fils parce que bah elle était trop fatiguée pour s'opposer à lui. Et là, bon, la difficulté qu'on a un petit peu en ce moment, c'est que donc, le père, comme son fils avait dénoncé sa violence, son père a dit qu'il ne voulait plus le voir. Là, récemment, ils ont... son père en fait, est venu au moment de l'audience et a dit qu'il voulait le revoir. Il discrédite, enfin, il discrédite beaucoup madame en disant qu'elle ne sait pas faire, que lui, il sait faire avec son fils. Et ce qui est compliqué, c'est que en fait, le fils ne voulait plus voir son père pendant qu'il y a eu la séparation, enfin, quand il a été placé. Et maintenant, c'est complètement contrebalancé, c'est-à-dire que maintenant, il voit son père et en fait, il est, il a, enfin, son père est, avant était violent avec sa femme et maintenant, Dylan, lors d'un week-end, a tapé sa mère en fait. Et voilà, là, c'est des entretiens où c'est un petit peu compliqué. Ils sont beaucoup dans, on ne parle pas de la maladie, on veut avancer et en fait, ben, moi, j'apprends aussi par, par exemple, par les éducateurs que les week-ends. Malgré leur dénégation, enfin les week-ends, voilà, ils passent à l'acte, ils tapent sa mère. Et ce qui est compliqué, c'est d'avoir et à la fois le, bah, les enjeux de la maladie et la maltraitance. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont présentes, quoi. Donc,
voilà. Comme si en même temps, on était dans les extrêmes, j'allais dire, hein. Celle qui peut pas mettre de limites. Et c'est bien ce que recherchent le pubère et l'adolescent. Hein. La prise, les prises de risque qu'il prend, c'est de la recherche de limites corporelles, sociales, législatives, comme s'il cherchait aussi une représentation, peut-être aussi, d'une enveloppe. Comment ? Ah, pardon. C'est vous l'avez au téléphone. Vous n'avez jamais vu Dylan avec ses deux parents.
Mais bon, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui reprend bon, tout simplement un mode de communication dans la famille aussi, enfin, par rapport à la maltraitance, enfin, entre autres. Je ne sais pas comment on peut le penser. Oui, d'autres personnes veulent réagir à cette situation.
Oui. Je vais passer le micro derrière, là, 4 ans derrière.
Merci. Moi, je pensais tout simplement à l'identification au père, hein, bien sûr, chez Dylan. Il frappe comme il a été frappé ou comme il a vu son père frapper sa mère. Sans doute a-t-il été témoin ou a-t-il entendu
Oui, tout à fait. Ce qui avait été repris par un spot qu'on pourrait critiquer, évidemment, hein, sur les enfants victimes collatérales de la violence conjugale, avec cette mère qui range un lave-vaisselle, visiblement pas comme le mari voudrait, qui bouscule sa femme qui tombe même avant qu'il l'ait bousculée. Et il y a un petit garçon à côté, on va penser qu'il va faire un câlin à sa mère. En fait, il lui donne un coup de pied. L'enfant a 3 ans. Là, il en a 14.
Ouais. Oui, je pense qu'il y a une identification. Hein. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette famille où tout le monde est malade? Est-ce que le père est malade aussi? Enfin, ça pose tout un tas de questions. Il paraît avoir une accumulation de difficultés dans cette famille.
Et comment on marque le corps? Le corps que l'adolescent sait très bien se marquer aussi. Hein. Alors, on avait aussi un petit peu associé par rapport au marquage du corps qui a fait l'objet de beaucoup de publications hein, entre les piercings et les tatouages. Et puis les scarifications, qui sont évidemment complètement autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on atteint, qu'est-ce que l'ado ou le pubère atteint au niveau piercing et tatouage de marques sur le corps, on pourrait dire sur le feuillet de par excitation, et qu'est-ce qui se joue quand il va jusqu'à se scarifier, ou comme disait, je crois, Marty, se faire presque un code-barre d'appartenance de scarification sur le bras et sur les parties qui sont données à voir. Hein. Ces scarifications qui sont douloureuses et qui s'apaisent et qui sont à la place d'une douleur psychique pas traitable encore, peut-être, en instance de traitement, j'allais dire, et qui fait que quand le sang coule et qu'en symbole de la vie, la douleur psychique s'arrête, laissant la place à une douleur physique. Et je pense que là aussi, Anna Maria Nicolo reprendra ça tout à l'heure. Hein. Oui, Christine. Vous pouvez passer le micro.
Cette thérapie, le jour où elle est venue, en s'étant marquée avec un rasoir, une larme sur la figure.
C'était figuré.
Oui. Et on a affaire à des choses comme ça qui en disent long, comment certains adolescents se battent avec ce corps à corps incestuel quand même, ouais, dont tu parlais là, dans ces familles où les mères passent leur doudou, ou là au niveau de la pilule, hein, le fait qu'elles prennent la pilule dans une espèce d'inceste maternel, où elle lui dit « tu n'auras pas le petit frère qui te consolera que j'aurais aimé avoir en place de toute cette défaillance ». Mais je voulais rebondir sur la question de madame là, qui appelait au secours tout à l'heure par rapport à ce qui nous préoccupe tous, je crois, cliniciens, de ces familles dites recomposées, mais aussi de la profondeur de la douleur des séparations, parce que c'était inclus dans votre question. Et je me demandais, c'est une question, hein, on continue à débattre ensemble, si effectivement, quand on parle de recomposition, un peu trop vite, de recomposition familiale ou de corps familial, on n'escamote pas quelque chose qui est la perte de ce corps du couple qui se sont aimés, hein, qui fonde aussi l'identité de l'enfant, puisqu'on sort pas seulement d'un corps maternel, mais on sort en principe de l'amour d'un couple qui s'est réuni.
Un corps conjugal. Corps,
hein, ce corps, cette cellule finalement, procréatrice, qui est quand même tout ce qui tourne autour des fantasmes originaires et aussi de cette identité. Alors, moi, bon, il se trouve que je travaille beaucoup aussi sur les conséquences psychiques du divorce, donc votre question me paraît tout à fait importante. Je ne sais pas si on a tellement des réponses, parce qu'il faut beaucoup se casser la tête en ce moment pour essayer de voir quel cadre est-ce qu'on reçoit un père avec ses enfants et à côté les mères avec leurs enfants, pensant qu'on ne peut pas réunir les couples séparés. Et en même temps, au sens que vous disiez, il y a des choses qui filent dans les actes ou les symptômes ou dans les inhibitions, dans les corps, qui ne se parlent pas, les effets de surmoi ou de clivage interne pour les enfants sont des choses tout à fait essentielles, et que peut-être à trop vouloir tirer les choses du côté du groupe familial ou de la recomposition, on n'arrive pas à penser quelle est cette perte aussi au niveau du corps du couple amoureux perdu. Et on n'utilise peut-être pas assez, on pourrait dire, l'envers de la scène primitive, auquel on ne peut pas toucher comme ça, parce qu'on sait que ça... c'est afférent à des fantasmes inconscients, on ne peut pas les sortir comme ça. Mais s'il n'y a pas quelque chose de cette perte du couple amoureux, qui est pour les enfants et pour souvent les partenaires... Alors c'est compliqué, parce que si on a les belles-mères qui elles-mêmes ont un couple amoureux en deuil, comment ça va résonner avec le couple amoureux de celui qui n'ose pas devant son autre nouveau partenaire. Et les enfants sont pris dans tout ça. Hein, je me disais, enfin moi je travaille beaucoup là-dessus, comment arriver à relier aussi nos corps sont étayés sur ce corps mythique du couple de nos parents et le corps familial. et que peut-être c'est une médiation difficile, parce que souvent le poids de la douleur, des deuils non faits, et puis d'un espèce de tabou de pensée dans la rivalité. J'en ai aimé un autre que toi, toi le beau-père ou la belle-mère, et je pense que les enfants sont très liés à ces espèces de fidélité sur moi, clivage, et que des fois quand on peut arriver à atteindre ce qui pour tout le monde, ce couple amoureux perdu ou recomposé, parce que c'est souvent le couple fantôme perdu, fait effet d'inhibition sur ce couple réellement qui est meilleur que les couples perdus. Si les gens sont séparés, des fois il y a eu des maltraitances, il y a eu des tas de choses, bon, des inhibitions sexuelles, des je sais pas quoi, hein, et que ce couple-là qui est recomposé est souvent comme prisonnier d'une espèce de culpabilité infantile, comme s'il n'avait pas le droit de se rétablir comme meilleur couple, dans le fond, des fois que les couples passés. Hein, on voit aussi ces choses-là, hein, où on a les enfants d'un partenaire avec le beau-père, et on a l'impression qu'on marche sur des œufs parce qu'il y a des choses qu'on laisse dans les placards. Et moi, j'ai beaucoup pensé à cette articulation, enfin, autour de ce couple amoureux, disons, pour parler. C'est peut-être important, hein, à retravailler des fois avec les adolescents, peut-être parce que c'est aussi l'identité, toute l'érotisation de l'identité, hein, tout ce qu'il y a de... qui peut se mettre justement dans un roman, dans des fantasmes, à l'adolescence surtout, pour pouvoir recréer une autre rêverie de soi-même, plutôt que ça passe par des actes de faire des bébés ou de ces emprises sur les corps.
Tout à fait. Ou c'est bien la scène primitive qui est interrogée, hein, bien sûr.
Et souvent ça, c'est pas le plus facile à sortir.
Non, mais c'était notre conclusion, en fait. On donnait la parole, effectivement. On s'était posé la question corps familial et scène primitive. Il nous revenait une phrase de Wiedermann qui est quand même assez ancienne, qui est de 77, qui disait évidemment, mais vous la connaissez peut-être, hein, que la scène primitive est la réalité psychique de l'ordre du mythe, forme fondamentale où s'inscrivent évidemment les désirs, les craintes originaires du sujet, la plus petite unité psychique, évidemment fantasme fondamental, incluant les deux autres fantasmes, séduction et castration, et qui donnera sens par la continuité du désir qu'il exprime, autant discontinu, lacunaire de l'existence historique du sujet, maillon d'une chaîne intergénérationnelle. Et on voit que dans ce principe-là, ça grouille aussi de transgénérationnel, hein, de ce qui est resté en instance de transformation, qui n'a pas pu être représenté, transformé, parlé, pensé, etc. Donc effectivement, c'est tout à fait judicieux de penser... au couple conjugal qui a donné naissance éventuellement avec une co-création d'un mythe quand même, hein, qui a pu donc se poser aussi la question de la transmission et qui donc a pu aussi faire des enfants même si le couple conjugal s'est séparé. Donc qu'est-ce qui reste dans la tête de l'enfant devenu pubère puis adolescent de cette histoire mythique de ses parents dont il est issu. Hein, très important, ça, je pense.
Oui, et en même temps, en faire le deuil aussi, d'une certaine façon. Non, mais je pense que non, mais je pense que c'est oui, bien sûr. Mais parce que il y a quelque chose aussi qu'on avait évoqué ensemble avec Florence. C'est la question de la dépression chez l'adolescent et tout le mouvement dépressif qui peut accompagner aussi ce questionnement, ces échanges compliqués dedans, dehors, s'en aller, se rester. Et effectivement, dans les familles recomposées, bon, ben, l'adolescent, il se sent un peu poussé dehors, d'une certaine façon.
Oui, mais c'est ça qui est extrêmement compliqué dans la clinique et où justement la part de... On pourrait se demander quel est le destin aussi de cette pulsion agressive de destruction sur le couple, que pour le coup, c'est les parents qui ont choisi de se séparer, hein, bien souvent. C'est pas les enfants qui leur ont dit « Allez, foutez-nous le camp, on a marre », même s'ils le pensent très fort. Mais quand je disais de façon un peu provocatrice, mais est-ce que les enfants ont à faire le deuil du couple amoureux de leurs parents? Parce que, je veux dire, eux, ils sont à vie représentants de cette cellule qui les a construits. Et sauf que les parents, bien souvent, eux ne veulent, font très mal le deuil de leur couple antérieur, soit par trop de haine, soit par trop d'idéalisation, soit par trop de culpabilité d'avoir détruit ce couple. Hein, et que les enfants se bagarrent souvent justement avec cette inhibition massive, que ça, c'est c'est presque interdit, sûrement, lié à cette difficulté d'élaboration des parents. Parce que dans le fond, quand les parents arrivent, grâce à nos thérapies de couple ou de famille, à élaborer un peu le deuil de ce qui a été perdu, enfin, moi j'ai fait beaucoup de thérapies d'adolescents, bah, les adolescents, ils récupèrent la bonne histoire et après, ça libère leur capacité de dire « vous me faites chier » ou « le beau-père, ça va » ou « la belle-mère ».
Et après, ils peuvent faire leur histoire à eux.
Je préfère me faire des petites copines et aller faire mes histoires amoureuses. C'est-à-dire ça libère toute la fantasmatique érotique de l'adolescent qui a quand même bien le droit de faire autre chose que de soutenir papa, maman, les beaux-pères, coupables.
Et puis de s'individuer.
Je ne sais quoi. Hein, qui, à ce moment-là, sombre dans une espèce de ou de position agressive ou soit de perversité incestuelle, etc.
Mais comme tu dis, il faut qu'ils récupèrent avant qu'ils puissent récupérer le monde.
Eh oui.
C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'ils ont un double trajet à faire, c'est-à-dire vraiment le trajet du couple de départ. Et puis après, bon, il y a quand même des liens qui se créent avec la belle-mère, le beau-père, et puis ils vivent dans le quotidien de l'argent aussi, hein, parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Petit compte en famille » et qui met la question sur les adolescents, sur ce que je disais par l'influence sociale, c'est-à-dire que les désirs en ce moment des adolescents sont multipliés par X par rapport à ma génération, par exemple. Et donc, les parents présents sont les parents qui permettent pas. Donc ça, c'est vraiment dans l'actuel, hein, je crois que ce que vous venez d'expliquer, c'était vraiment le fondement. Donc j'ai l'impression que c'est comme pour le dit féminin, la femme a deux fois deux objets d'amour à renoncer. Et j'ai l'impression que dans les familles un peu recomposées, comme ça, il me semble que le trajet est plus compliqué pour les enfants.
Ouais, oui, moi ça me faisait associer aussi à ce beau livre qui était issu du travail de chargée de mission d'Irène Théry, dont Heidi Popper, qui est dans la salle, avait fait un beau résumé dans l'intermédiaire, notre petite revue qui paraît donc quatre fois par an. Je ne fais pas de publicité, hein, mais vous connaissez pour les étudiants qui la reçoivent, et qui disait que ce beau parent, il n'est ni parent ni ami, il se choisit, ce qui est une relation très particulière, hein, de l'enfant adolescent avec le compagnon ou la compagne de sa mère. C'est complètement autre chose. Bien évidemment, je disais ça pour différencier de tout ce qui peut se passer dans la tête de l'adolescent par rapport à la rêverie de la scène primitive dont il est issu. Tu peux peut-être en rajouter un mot, Aïdé, parce que je te vois là, non ? Je ne sais pas. Vous pouvez passer.
Et cette enquête sur, je crois que 50 enfants et adolescents, dans cette enquête, on leur avait demandé de dire qui ils considéraient leur famille. Donc des enfants de famille recomposée, qui est-ce qu'ils considéraient leur famille ? Et en fait, on s'est trouvé avec des choses assez curieuses. C'est-à-dire la famille englobée pour les uns un parent biologique et un parent recomposé, enfin belle-mère ou beau-père. Pour d'autres, c'était la fratrie de tous les côtés. Il n'y avait pas les parents, ni les beaux-parents. Donc effectivement, là, on est dans quelque chose d'assez curieux, on va dire, et une image de la famille qui est en pleine transition et qui mérite aussi qu'on s'attarde à voir quelles sont les tâches et les fonctions des parents et des beaux-parents dans cette nouvelle forme sociale, familiale. Voilà.
Oui, sans oublier effectivement, dans ce corps familial, la fratrie sur lequel ont travaillé Odile Bourguignon, Rosa Reitin et bien d'autres, hein, et qui effectivement ne sera peut-être pas complètement mis en relief dans nos trois demi-journées. Là, on a du travail encore, hein, bien sûr. Encore une ou deux questions pour que vous puissiez bénéficier un petit peu d'une pause avant la reprise.
Et vous faites une distinction entre pubère et adolescent, vous citez ça.
Bah ça, je vous renvoie à vos cours de Philippe Buton, madame.
Hein, oh, ça fait longtemps.
Qui a été très clair. Hein.
Je ne sais pas si je les ai gardés.
Non, la période... moi, si. La période de... Enfin,
Buton et, parce que ça me,
et Annie Biraud évoquaient la période pubère comme une période de somatisation, hein, oui. Où le pubère est très pris par ses préoccupations corporelles, bien oui. sûr, et où l'importance des pairs est très importante, avec des groupes non mixtes, où il y a évidemment une réactivation du conflit oedipien et un début de sexualité génitale. Hein. Mmh. Alors que l'adolescence, c'est une période de désomatisation. Les groupes se remixisent, ils diminuent en nombre, c'est une période d'engagement, c'est complètement différent. Du reste, je vous rappelle aussi, petite anecdote, que l'âge du premier rapport sexuel, c'est 17 ans, c'est en pleine adolescence. Par contre, l'âge du premier baiser, dernière enquête INSERM, c'est pubère, hein. c'est du 13 ans à peu près, mmh. hein, pour la génération actuelle. Pas pour la génération des quinquas ou des sextas, pas du tout. Hein. L'âge moyen, enquête INSERM, hein, d'il y a 3 mois.
Oui, enfin, dans les fêtes actuellement, il me semble, bon, il se trouve que je suis grand-mère de 8 adolescents. Voilà, ça me pose beaucoup de questions. Et adolescents, ils commencent à avoir des conduites adolescentes à 12 ans maintenant.
Bon, enfin, il n'y a pas d'adolescence sans puberté. Hein.
Oui, non, moi, je sais bien, mais dans la parole des parents, c'est, eh ben voilà, j'ai 8 ados à la maison maintenant. Ou... C'est pour ça que je demandais une précision. Je rapporterai la distinction en lui.
Je peux revenir sur votre cas parce qu'il y a quelque chose, quand je suis arrivée un peu tard, j'ai pas bien saisi le lien que vous faites entre les histoires d'orientation et le corps familial ou l'enveloppe familiale. J'ai pas bien.
Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien direct à proprement parler, mais c'est vrai que. C'est au niveau du langage de cette famille. Hein, qu'est-ce que ça venait dire, hein, quel était ce langage, qu'est-ce qu'il signifiait par rapport à la façon dont ils se représentaient leur groupe familial. Hein, c'est plus plutôt dans ce registre-là, hein, que je trouvais que c'était intéressant. Et puis, par rapport au à la façon dont ça nous a questionnés, interpellés, ouais. quand même. Hein, parce que c'est une histoire de se perdre, se retrouver. Enfin bon, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie comme s'il y avait quelque chose, une espèce de répétition. Tu parlais du Forda par rapport à ça, mais effectivement, hein, une compulsion comme ça, de se perdre, se retrouver, de vivre quelque chose, de la séparation et de retrouvailles. Enfin bon... quelque chose qui pouvait avoir avec de l'archaïque en tout cas, hein, parce que quand on parle de corps familial, corporéité, on est dans le registre aussi archaïque.
Du reste, ils se retrouvaient pour un gros repas, hein, ensemble, tous ensemble.
Mais bon, c'est une situation récente, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, je trouve que c'était intéressant et important de pouvoir essayer de le penser aussi dans cette direction-là.
En tout cas, ils n'avaient pas une boussole commune. On peut se demander aussi avec quels outils ils se perdaient et se retrouvaient.
Qui concoctait les petits papiers là, ça me fait penser au rallye plutôt, enfin au jeu de piste, mais il faut bien que quelqu'un les fasse, ces choses-là, les jeux de piste. Qui les fabriquait?
Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. En tout cas, c'était... Oui, c'est une association, je me demande si ce n'est pas la mère d'ailleurs qui avait créé cette association, enfin pas toute seule.
Ah, c'était pas... personnel que la famille, il participait
oui,
à
il y
un,
avait
groupe.
Un groupe.
Ah,
c'était
d'accord.
Ça se faisait aussi avec d'autres.
Oh, ok.
Eh oui, je pense qu'on a compris que la famille.
Ah.
nous avions compris alors, que c'était que cette famille qui vivait en autarcie dans cette...
Non. Il y avait un petit quelque chose de la socialisation et d'ouverture quand même.
Peut-être que la mère était dans le comité d'organisation de cette désorientation. Mais moi, ça me fait penser fortement à ces parents qui supportent absolument pas que leur bébé prenne du plaisir tout seul, que ce soit tout petit ou que ce soit plus tard, et qui vont contrôler éventuellement les entrées et les sorties du corps, et qui, dès la puberté, alors que en primaire, ils avaient un petit quart d'heure de retard, c'était pas grave, et tout d'un coup, là, dès la puberté, ils ont 5 minutes de retard, c'est catastrophique, et là, ils vérifient effectivement les entrées et les sorties de la maison. On reprend la maison, et ce qu'elle nous a raconté Alberto Egger, mais on a aussi beaucoup associé pendant la préparation sur la maison, les ouvertures, les fermetures, les rideaux, les volets, ce qui se passe dans la chambre des ados, bien évidemment, hein. Et cette espèce de précipitation et cette inquiétude monumentale, absolument exagérée, de l'extérieur, hein, en contrôlant donc entrée et sortie de l'ado, qui bien évidemment rentre, et puis ressort éventuellement à 2-3 heures du matin pour aller voir ses copains. Moi, j'ai déjà entendu ça.
Oui, mais
le monde est couché à 23 heures, ça c'est sûr. Après, qui se lève, ça c'est autre chose.
Et il y a aussi le danger, les entrées, les sorties sur ordinateur, sur Facebook, et sur tout ce qu'on peut... Et ça, c'est une exposition aussi qui inquiète.
En tout cas, l'enveloppe familiale est effractée, est à plusieurs feuillets et à mobilité, j'allais dire, plus ou moins importante. Hein, ça, c'est sûr, hein.
Mais pour prolonger l'exemple de Christine, là, c'est vrai que dans les situations où il y a un enfant handicapé, un adolescent qui devient adolescent, et c'est vrai que l'accompagnement de l'adolescent à ce moment-là est très très difficile, parce que pour la famille c'est vraiment la confrontation de par rapport à la sexualité de l'enfant handicapé, enfin de l'adolescent handicapé, qui pourrait aussi ressurgir comme ça, et il faut absolument à ce moment-là le garder le plus longtemps possible sous leur aile, quoi, hein. C'est quelque chose qui est très, très ravivé et exacerbé au moment de l'adolescence. Enfin, peut-être on en reparlera dans un autre lieu.
Tout à fait. Oui. Bon, dernière question, et puis après, on va se bouger un petit peu les jambes, là.
Du coup, je voulais juste parler d'un type de famille ou de jeune, enfin, très très peu abordé ce sujet-là. Mais des,
vous pouvez vous présenter ?
Oui, Sarah Skiaou, je travaille dans un espace santé jeune à Lyon. Et donc, c'est un lieu qui accueille des adolescents, des jeunes de 12 à 25 ans. Et du coup, je me posais la question des jeunes qui, eux, sont loin, ne serait-ce que géographiquement, de leur famille. Donc, du coup, c'est une population, enfin, des personnes avec... Enfin, on ne peut pas travailler, proprement dit, avec leur famille, enfin, au sens concret du terme. Et du coup, je me posais la question du corps familial, avec tout ce que ça implique de... Alors, c'est pas forcément dans des situations migratoires, mais souvent, il y a quand même un lien avec ça, où le papa est à tel endroit, la maman, on ne sait pas, des jeunes placés ou encore... Moi, je vois beaucoup d'adolescents, justement, qui n'ont pas la famille autour et qui se déplacent pas pour faire une thérapie familiale. Et du coup, je me demande comment traiter cette question de la famille, du corps, de l'histoire, sans la présence des parents, et présence en consultation, mais même dans la vie, dans la construction du jeune, quoi.
Après, c'est peut-être un peu hors sujet. Oui, mais la représentation du corps familial, de ces enveloppes sont là, existent, qu'ils soient là ou pas. Parfois, on a effectivement... moi, je pense à des familles... aussi, je peux travailler avec une population où il y a, je ne sais pas combien... Enfin, l'autre fois, dans le centre, on a compté le nombre d'ethnies qu'il y avait. C'est plus de 50. En fait, c'est très important. Et parfois, les parents les plus loin peuvent aussi être très proches. La représentation familiale n'est pas liée uniquement à la distance géographique, loin de là.
Non, mais c'était... distance géographique ou autre ou symbolique, mais du coup c'est, alors ce serait plus travailler sur les représentations du jeune, ouais, sur les... Merci.
Bien, ben merci.